Vous écoutez
RMC.
RMC, les grandes gueules, les GG et vous.
C'est Adrien qui va reprendre la parole. On a parlé de ce qui s'était passé. Vous savez, cette vidéo d'interpellation par un policier d'un jeune, une histoire de stupéfiant. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, violence policière ou pas. On va en parler avec Adrien et Barbara Lefèvre. On écoute Barbara d'abord.
Là, on a encore des gens qui filment. Et on en a eu plein, hein, des affaires comme ça, d'arrestations de gens qui sont interpellés, se débattent. C'est pas non plus une interpellation tranquille, pépère. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la police, elle est face aussi à des délinquants qui sont eux-mêmes de plus en plus agressifs, de plus en plus violents. Dès qu'un policier se fait taper par un délinquant en fuite, il a le droit de riposter. C'est quand même lui qui a l'exercice de la violence légitime.
Adrien, bonjour.
Bonjour les GG.
Bonjour, Barbara vous écoute. Bonjour. Adrien.
Oui, bonjour Barbara.
Bonjour.
Je voulais revenir sur ce que vous aviez dit donc en tout début d'émission sur la légitimité de l'usage de la violence par la police et au sujet de ces fameuses vidéos qui sont souvent coupées ou qui ont été prises qui commencent à être filmées. Alors que l'histoire a déjà commencé depuis quelques minutes et que du coup on est souvent à dire oui mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant. De mon avis, la police aussi a une tendance parce que j'ai deux enfants, je suis vraiment pas quelqu'un à chercher des noises à qui que ce soit. J'ai déjà eu des histoires comme ça où la police est rentrée dans le tas alors que je n'avais rien à voir, me retrouver plaqué au sol. Me retrouver à me faire chuchoter des mots dans l'oreille en me malaxant les poignets avec des menottes alors que je n'avais rien à voir dans l'histoire. C'est pas l'histoire du sujet, mais j'ai déjà eu des soucis avec la police et la légitimité n'était pas du tout présente. Je pense que depuis quelques années, la police vraiment use de violence en premier moyen de communication, en fait, pour montrer l'autorité totale de la police sur les citoyens. Et bon, là, c'est peut-être le cas d'un dealer, c'est peut-être le cas d'un trafiquant. En même temps, on n'en est pas totalement sûr non plus. On ne sait pas, comme vous dites, ce qui s'est passé avant. Mais si ça se trouve, ce jeune homme-là n'a pas fait grand-chose non plus.
Là, il a fait que 24 heures de garde à vue. Il est ressorti derrière. Donc, les charges qui pesaient sur lui, visiblement, n'étaient pas très lourdes. Barbara Lefèvre.
Oui, j'entends tout à fait ce que vous expliquez. Il n'empêche que ce jeune homme qui a été interpellé a refusé d'obtempérer. Il était en situation de rébellion. Le policier s'est âprement défendu. Il en a déchiré son t-shirt et il était un petit peu largement griffé par cet individu qui ne voulait pas se laisser interpeller paisiblement. J'entends ce qui vous est arrivé. Ça peut arriver, d'ailleurs, quand on fait toute forme de manifestation, qu'au moment des dispersions, il y a des mouvements de foule, la police met des coups de matraque, ça je l'entends très bien, mais il n'empêche que dans un État qui est un État démocratique, un État de droit, il y a quand même une violence légitime et c'est la police qui la détient. Mais encore une fois, il y a des situations de violence qui sont particulières, il y a un climat aussi de violence dans certains quartiers qui fait monter la pression de partout et on peut aussi comprendre qu'à certains moments, il y ait des gestes qui sont des gestes particulièrement violents. Sur ce cas-là, j'ai pas banalisé. Je considère qu'effectivement, un homme à terre, on n'a pas besoin de lui mettre en passant un petit coup de pied. Mais je trouve quand même que le discours anti-police qui est largement utilisé en ce moment et qu'on ressort à la moindre occasion en faisant, qui plus est, des parallèles tout à fait inopportuns et qui n'ont rien à voir avec le contexte de cette interpellation en l'occurrence, je l'ai trouvé déplacé. Il n'empêche qu'il y a toujours des bavures. Il y a des bavures, comme il y a des erreurs médicales, comme il y a des mauvais profs.
On peut pas non plus faire une fatalité. On comprend que
le
risque zéro n'existait pas.
On est sanctionné pour ça, mais maintenant, il ne faut pas que ça devienne non plus systématique d'accuser la police alors qu'elle met une tarte à un délinquant.
Ça crée un climat, c'est ce que dit Adrien, ça crée un climat de méfiance vis-à-vis de celui qui doit incarner l'autorité, Adrien.
Et puis même, si, admettons, on n'a aucune information sur ce qui s'est passé avant, comme vous le disiez, les vidéos, elles commencent là où elles commencent, et puis on ne sait pas ce qui se passe avant, après, on n'en sait rien. Ça se trouve, il a été relâché parce qu'au final, il avait absolument rien fait. Peut-être que, on n'en sait rien, peut-être que ce brigadier, je ne sais pas, qui était de la BAC ou je ne sais pas, il était en civil, un policier de police.
D'accord, mais la question de départ, c'est pourquoi est-ce qu'il n'obtempère pas ? Moi, je ne sais pas, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Moi, on m'arrête. Je peux très bien me retrouver dans une situation où je ne suis pas au courant, il y a des dealers. Non, mais juste une question. Moi, je peux très bien me retrouver dans une situation où je connais pas ces gens, puis finalement, il s'avère que c'est des dealers. Je suis en train de leur parler. Tout d'un coup, la police nous tombe dessus. Elle nous demande de nous mettre au sol. Elle nous plaque. Moi, je vais pas avoir dans l'idée d'aller tabasser le policier, de me rebeller. Non, ben moi, je vais me poser. Je vais plus bouger. Et j'ai pas besoin qu'on me mette un flingue sur la tempe pour ne plus bouger. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est cette nécessité de refuser d'obtempérer, de refuser de répondre à un ordre de police qui vous est donné, comme ces gens, ces jeunes qui sont en scooter avec des scooters volés sans casque. On leur dit de s'arrêter, ils s'arrêtent pas et ensuite ils se prennent le mur, c'est la faute des policiers. Non, faut arrêter avec ça. Il y a un moment donné, quand on vous dit stop, c'est tout.
Oui, mais sur ça, je suis complètement d'accord avec vous. Mais il y a énormément d'autres circonstances où c'est totalement injustifié. Donc en fait, ce déséquilibre de la légitimité de la police dans certaines interventions fait que derrière, on n'a plus envie d'obtempérer. Pour revenir sur mon histoire, j'étais en train de boire avec des copains une bière dans un bar à Cannes. La police a une tendance à jouer vraiment les cow-boys, vraiment énormément, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, c'est très touristique. Donc je pense que les ordres sont de cette fait pour que ils fassent un petit peu entre guillemets la loi. Enfin, c'est leur travail, mais la fassent vraiment fortement. Et il y a une petite altercation qui est arrivée à une table d'à côté. La police en plein centre de Cannes arrive très rapidement. Hein, c'était en plein été. La police est arrivée très rapidement. Ça se tapait de tous les côtés. Ils sont arrivés, mais comme des balles. Ils ont pris tout le monde, ils ont mis tout le monde par terre. Et la personne, pour vous dire, qui a déclenché cette espèce de rixe là, voilà, ça a été, c'est la personne que j'ai vue, moi. Alors, pendant que moi, j'étais plaqué au sol avec un policier qui me chuchotait dans les oreilles. Hein, t'es là, t'es bien, mon petit, hein, t'es bien, là, machin, à malaxer les poignets avec des menottes, alors que j'étais juste à la table à côté, et que j'essayais plutôt de détendre l'atmosphère. L'autre personne qui, elle, a commencé l'histoire.
Et t'es pas inquiété.
En moto, tranquillement.
Il y a eu là, pour le coup, Adrien, effectivement, oui. Y a eu, d'après ce que vous nous racontez.
Mais c'est
y a
pas
eu
le même contexte que la vidéo qu'on a vue à
une mauvaise appréciation de la situation.
Oui, je comprends, mais.
Merci, Adrien. Suite du GG, vous, dans un instant, en direct sur RMC. Et RMC Story sera pour la camarade Didier Giraud.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, dans un instant, on enchaîne avec Stéphane. GG, vous, avec Didier Giraud sur les maires qui sont en danger, MAIRES. Mais Radio Brunet reprend ses droits aujourd'hui en direct avec monsieur Emmanuel Le Chypre qui est avec nous. Midi 14h, Radio Brunet, que va-t-il se passer dans...
Exactement. Eh bien, écoute, première partie, le nouvel ennemi public numéro 1, les trottinettes.
Oui.
Les trottinettes. Alors évidemment, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que, manifestement, on va chercher à réglementer, mais que, comme d'habitude, on va sans doute aller trop loin et qu'on risque effectivement de passer à côté de ce sujet majeur qui est que ça répond à un problème de mobilité aujourd'hui. Et donc, on va voir si, finalement, les auditeurs sont plutôt pour ou plutôt contre. C'est une vraie solution à la mobilité en ville. Et puis alors, malheureusement, j'ai envie de dire, le marronnier des frais bancaires. Alors, mais les chiffres sortis ce matin, vous vous rendez compte, les banques françaises, 6 fois plus chères que les banques allemandes, par exemple, sur les impayés. Non, mais là, ça va pas du tout. Alors, on nous a fait des promesses en début d'année, en nous disant que pour les plus modestes, on limiterait à 25 euros les frais, etc. Là, il y a un moment où il faut que les banquiers respectent leurs promesses.
Les banques françaises sont en meilleur état que les banques allemandes. Hein.
Elles sont en meilleur état. Oui, bah on comprend pourquoi, mon cher.
Les banques allemandes, hein, dis donc. Hein.
Les promesses d'un banquier.
Effectivement.
On peut croire ça.
Il va falloir en tout cas qu'ils les tiennent parce que il y a de la concurrence. Alors évidemment, hein, bon, elles vont pleurer les banques, elles n'ont plus les moyens de se rémunérer, les taux zéro, tout ça. Mais ça n'empêche que pour les clients, c'est un peu la double peine, et notamment pour les plus modestes.
32-16 pour donner vos exemples aux camarades Emmanuel Le Chypre dans Radio Brunet, midi 14h sur RMC. Les maires sont-ils en danger ? C'est ce que craint François Baroin. Les maires ne veulent pas se représenter parce qu'aujourd'hui ils subissent les incivilités, ils sont sous la pression des citoyens, ils manquent de moyens. On va réécouter Didier Giraud et tu en parles avec Stéphane du Finistère.
Moi, je trouve que ce chiffre, 50% des maires ne veulent pas se représenter, c'est quand même un chiffre qui doit nous alarmer. Et le maire n'a plus de prérogatives personnelles à part gérer des emmerdements, quoi. Je pense que ça, c'est un des principaux points sur lesquels les maires ne trouvent plus leur compte à exercer ce mandat qui, finalement, avait quelque chose du bénévolat, quand même, quoi. Quand t'es maire d'une commune rurale, tu dois toucher une indemnité qui est complètement dérisoire. Donc, ça veut dire que t'es quand même bénévole pour tes concitoyens, aussi service de ta commune.
Stéphane, bonjour.
Oui, bonjour.
Allez-y,
bonjour,
camarade Giraud de Saône-et-Loire, écoute Stéphane du Finistère.
Oui, alors bonjour. Alors, je voulais vous dire, c'est insupportable d'entendre ça, quoi. Parce que en fait, mine de rien, les maires, ils ont été élus par des concitoyens. D'accord.
Oui.
Ils sont au service des concitoyens, quoi.
Oui.
Donc, s'ils veulent pas le faire, ils le font pas, quoi.
C'est ce qui va se passer aux prochaines élections, Stéphane.
Au service.
Exactement. Exactement. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Mais quand un maire ne répond pas à ses administrés, je sais pas où on va, quoi.
Je vois pas où tu veux en venir. Ce que j'avais compris, ce que je mettais en évidence, c'est que si les maires ne voulaient pas se représenter, c'est parce que le jeu n'en valait plus la chandelle, quoi. Hein. C'est que ils avaient de moins en moins de pouvoir de décision parce que les intercommunalités ont supplanté les municipalités et que derrière ça, ils font du bénévolat dans le sens où, dans des communes rurales, enfin on a eu un exemple tout à l'heure, 500 habitants, c'est 1000 euros par mois, pour être présent 24 heures sur 24, 365 jours par an, bénévolat.
Je te rassure, le maire de ma commune n'est pas présent 24 heures sur 24
c'est quoi,
et
ta
365
commune
jours par an. Quand on demande à un maire où sont passées certaines subventions et que le maire ne nous répond pas, là il y a un problème.
D'accord. Non mais ça existe.
On paye des impôts, quoi.
Non mais alors là, Stéphane.
On est les seuls à payer des impôts.
Stéphane, qu'il y ait des communes qui soient mal gérées et que les maires, qu'il y ait des maires véreux, ça, je veux bien l'entendre, le bulletin de vote, il sert à ça, il sert à le dégager, hein.
Donc il faut le dire.
Il faut dire que
tous les maires, c'était ça l'objet de mon appel. C'est-à-dire que vous êtes en train de présenter les maires comme des super-héros, machin, bidule.
Mais pour l'immense majorité, c'est vrai, arrêtons quand même. Arrêtons là-dessus.
Pourquoi, Jacques? Pourquoi tu dis ça?
Les maires sont très populaires. Oui. Honnêtement, il y a des maires extrêmement dévoués. Il y a des maires qui sont quasiment bénévoles.
Oui, mais voyez, Stéphane, vous dites le maire, il est au service de ses administrés comme un côté taillable, corvéable, à merci, sur lequel on peut aussi s'essuyer les pieds, quoi, en fait, Barbara Lefebvre.
Non, il est au service de l'intérêt général. C'est-à-dire, il est au service d'un collectif.
Et il ne peut pas pour autant tout accepter.
Ah, bien sûr.
Voilà,
il ne peut pas satisfaire 100% de ses citoyens. Ça n'existe pas. C'est le monde des bisounours. Il doit répondre à l'intérêt général. Il doit gérer sa commune sans évidemment pouvoir en tirer des bénéfices personnels d'aucune forme que ce soit, et on peut dire quand même que 90% si ce n'est plus des maires sont des maires honnêtes, donc il faut arrêter avec cette espèce de mythologie de l'élu malhonnête qui s'en met plein les poches, hein. On n'est plus vraiment non plus à cette époque.
Bien sûr, ça arrive, mais ça reste des épiphénomènes.
Mais ça arrive comme dans toute profession, dans tout corps social, il y a des brebis galeuses, mais ça ne doit pas jeter l'opprobre sur l'ensemble de ces élus. Et en règle général, un maire, un élu, il est là pour répondre à l'intérêt général et pas pour répondre aux intérêts individuels de chaque citoyen.
Merci Stéphane. Dernier mot, on va reparler, vous savez, de la directrice de cabinet de Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, qui s'est moqué de Greta Thunberg. Donc on va réécouter le petit extrait, et puis c'est de Barbara, et ensuite elle en parle avec Philippe.
Bien un ministre de l'Agriculture comme ça qui croit à la vraie agriculture paysanne. Au bûcher, cette pauvre Béatrice Fanon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle fait de l'humour. Mais on ne touche pas à Greta, c'est Sainte Greta. On l'a dit, c'est une icône, il ne faut pas la toucher. Tout ce qu'elle dit est pure vérité. Non, moi je trouve ça sidérant.
Non, c'est pas ça. Avant de parler de Greta, quand tu es directrice de cabinet du ministre de l'Agriculture,
tu as le droit de faire des blagues en privé.
Est-ce que tu t'amuses à faire des blagues comme ça sur les réseaux sociaux? Philippe, bonjour.
Oui, bonjour.
Allez-y, Barbara vous écoute.
Eh bien, Barbara, je m'insurge un peu contre vos propos parce que vous critiquez le fait que la directrice de cabinet, tout le monde lui ait jeté l'opprobre par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Mais je voulais vous signaler aussi que c'est avec un peu d'analyse que vous faites la même chose. Et moi, je l'ai vécu tout au long de la matinée dans votre émission avec les approximations quant à l'agriculture. Moi, je suis agriculteur, je suis céréalier. Je me suis senti visé toute la journée quand vous dites, notamment la bande-annonce, bon, c'est pas Barbara, mais c'est la bande-annonce, la fin d'un modèle agricole. Eh ben, j'ai l'impression que c'est de moi dont on parle. Et là, je pense qu'avec des approximations, vous en avez eu plusieurs tout au long de la matinée, notamment les tracteurs américains, puis d'autres, ça me revient pas à l'esprit. Et ben, je trouve que vous parlez d'un sujet donc que vous maîtrisez pas, et je peux vous dire que le monde paysan, que ce soit les éleveurs, les céréaliers, les arboriculteurs, on a l'impression que ben, vous véhiculez tout un message qui nous stigmatise constamment.
En l'occurrence, vous vous êtes complètement trompé en me concernant sens, parce que alors, moi, s'il y a bien quelqu'un qui défend la civilisation paysanne, c'est bien moi, et l'agriculture paysanne, c'est bien moi. Effectivement, je vais pas défendre les grands céréaliers du bassin parisien qui nous pourrissent
avec. C'est ce qu'il est, monsieur.
Voilà, j'en sais rien. Non, je pense pas. Peut-être pas. C'est peut-être un céréalier respectueux qui nous met pas des pesticides partout. Donc là, il y a pas de problème. Moi, effectivement, je suis contre l'agriculture intensive, l'élevage intensif. Je suis contre les usines à élevage de porcs et tout ce qui conduit à nous faire manger une nourriture. Un porc, ça doit vivre 20 ans, ça ne doit pas vivre 6 mois avant d'être tué dans des conditions inacceptables. Donc oui, moi je ne suis pas pour cette agriculture-là, mais par contre je suis pour une agriculture comme celle de Didier, peut-être la vôtre, je ne sais pas quel genre de céréalier vous êtes, mais en tout cas, je ne crois effectivement pas à Sainte Greta Thunberg, et là non, en l'occurrence, je ne vois vraiment pas où il y avait une contradiction chez moi.
Merci Stéphane, Philippe, pardon, à bientôt. Demain, Maxime Liedo, Marianne Soubré, Étienne Liebig, et nous serons avec Julien Odoul. Il fait partie de ces personnalités qui montent aujourd'hui au Front National. Il est membre du bureau national du Rassemblement National. Passez une bonne journée et rendez-vous demain dès 9h pour les GG, les Grandes Gueules.
RMC, les Grandes Gueules.